Vous écoutez On lit pour vous.
Cinq preuves que Montréal est encore pertinent dans l'écosystème mondial. Un texte de Julie Chaumont, paru le 22 juin 2026 dans la presse. Avant l'utilisation massive de l'intelligence artificielle, IA, Montréal était une des villes les plus réputées au monde en la matière. Le portrait de cette technologie a grandement évolué depuis, mais la métropole conserve toujours une place de choix sur l'échiquier international. En voici cinq preuves. Montréal est un pôle mondial en recherche fondamentale. On est très fort à Montréal dans la recherche fondamentale. C'est là où on est extrêmement fort, affirme Mark McLean, vice-président investissement étranger pour Montréal International. Depuis la fondation du MILA, l'Institut québécois d'intelligence artificielle, en 1993, Montréal est reconnu pour ses nombreuses contributions en intelligence artificielle, notamment en matière d'éthique. Affilié à quatre universités, soit l'Université de Montréal, l'Université McGill, Polytechnique et HEC, la communauté du MILA comprend la plus grande concentration de chercheurs universitaires en apprentissage profond, deep learning, au monde. On produit encore beaucoup de talents. On a des professeurs, des chercheurs et des centres de recherche de pointe, soutient Jean-François Gagné, expert en intelligence artificielle et PDG de NERA, plateforme technologique qui gère le cycle de vie des logiciels et qui optimise la collaboration entre humains et agents d'IA. De grandes entreprises choisissent Montréal. Bien que le télétravail instauré depuis la pandémie ait causé l'exil d'experts et d'entreprises, Montréal est encore une ville convoitée. Parmi les derniers acteurs importants qui s'y sont installés, Ami Labs, une nouvelle entreprise du français Yann Lequin, ex-patron de l'intelligence artificielle chez Meta et figure de proue aux côtés du Montréalais Joshua Bengio et du Britanno-Canadien Geoffrey Hinton. Pour lancer cette nouvelle entreprise, Yann Lequin a fait une levée de fonds de plus de 1 milliard de dollars. C'est pas une petite levée de fonds. Et il a ouvert quatre bureaux. Un à New York, un à Paris, un à Singapour et un à Montréal. Je pense que c'est un bel indicateur que Montréal est toujours une ville importante, souligne Mark McLean. Les occasions sont nombreuses à Montréal. Laboratoires, universités, grandes entreprises, jeunes pousses. Montréal offre des occasions variées aux personnes qui veulent travailler en intelligence artificielle. Une des forces à Montréal, c'est qu'on a l'écosystème au complet. Les gens savent que s'ils veulent faire de la recherche, il y a des opportunités. S'ils veulent travailler dans une start-up, développer de nouvelles solutions, il y a des opportunités. S'ils veulent travailler dans une grande entreprise pour développer, peut-être, des solutions les plus avancées possibles, ils ont la possibilité, affirme Mark McLean. Montréal jouit d'une bonne réputation. Dans les salons et les événements majeurs consacrés à l'intelligence artificielle, dont le VivaTech à Paris, Montréal n'est peut-être pas la ville qui fait le plus de bruit, mais elle fait partie de celles qui jouissent d'une grande notoriété. C'est Montréal qui représente l'IA au Canada. Les experts de Montréal sont dans les conférences qui sont les tops des tops. Auprès des chercheurs et avec les gens qui travaillent dans l'IA, Montréal se démarque, affirme Mark McLean. Montréal n'a pas raté le train, mais ferait mieux d'être en gare. Non, Montréal n'a pas les moyens financiers des géants de la Big Tech, Microsoft, Meta, Alphabet ou Amazon, qui prévoit cumuler près de 700 milliards de dollars de dépenses d'investissement dans l'IA. Cependant, Avec son expertise de pointe et la présence d'entreprises jouissant d'une réputation internationale, la ville a de bonnes assises et est encore dans le coup. Pour l'instant. Selon Jean-François Gagné, on peut en faire beaucoup plus, notamment sur le plan de l'investissement dans des centres de données. L'intelligence émane de ces endroits-là. Plus encore, notre connaissance et notre capacité à rendre nos compagnies productives va dépendre de l'utilisation de cette technologie-là. Alors, ce serait le fun qu'on en ait beaucoup à la maison plutôt que d'envoyer nos données aux États-Unis. C'était 5 preuves que Montréal est encore pertinent dans l'écosystème mondial, un texte de Julie Chaumont, paru le 22 juin 2026 dans La Presse.
Un 25 $ qui fait une grosse différence sur l'économie d'ici. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 25 juin 2026 dans La Presse. Si chaque ménage québécois dépensait 25 $ toutes les semaines en produits locaux plutôt qu'en biens étrangers, les retombées économiques qui découlerait de ce choix de consommation serait importante. Un constat encourageant pour ceux qui veulent contribuer à l'économie locale tout en respectant des contraintes budgétaires. Repeindre la cuisine avec une peinture d'ici ou avec une marque d'ailleurs? Pour le nettoyage, récurer la maison avec un produit québécois ou étranger? Au-delà des discours sur l'importance de l'achat local, ce sont ces décisions et les chiffres qui en résultent qui parlent le plus. Multiplié par le nombre des ménages québécois, ce déplacement hebdomadaire de 25 $ vers des produits d'ici générerait 3 milliards de dollars en retombées économiques, 29 000 emplois soutenus ou créés, et 180 millions en revenus pour le gouvernement, révèle un rapport publié jeudi le 25 juin 2026 par l'organisme de certification Les produits du Québec, en collaboration avec App Eco, le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, MEIE, et l'Institut de la statistique du Québec. L'objectif de ce document intitulé « Acheter au Québec, des retombées qui se mesurent » était de simuler les effets concrets lorsqu'un consommateur décide de mettre dans son panier une bouteille de shampoing ou un sac de nourriture pour chat produit ici au lieu d'opter pour son équivalent étranger. On illustre même les sommes qui s'en dégageraient en soutenant que les retombées économiques de 3 milliards représentent plus de 36 fois l'impact économique du Festival d'été de Québec. Les 29 000 emplois, eux, équivalent à presque une fois et demie la capacité du Centre Bell. Pour l'exercice, on a effectué des simulations dans 12 catégories de produits où il est possible de dénicher des équivalents québécois. Santé et beauté, maison et jardin, meubles, quincaillerie, vêtements. L'incidence sur l'économie a été calculée pour chacune des catégories. Quelques exemples. Une dépense de 25 $ par an pour chaque ménage en produits de santé-beauté québécois, générerait 60,3 millions de dollars en retombées économiques. En ce qui concerne les meubles d'ici, une dépense annuelle de 100 $ générerait 272,6 millions. L'étude s'est concentrée sur des articles non alimentaires, sauf en ce qui concerne les produits pour animaux. Concrètement, l'analyse a simulé une hausse de l'achat local au moyen d'une diminution du taux d'importation de certains produits. Autrement dit, sans augmenter les dépenses des ménages, une part des produits importés est remplacée par des produits d'ici, peut-on lire. Logos et prix. Pour Elfie Morin, directrice générale de l'organisme Les produits du Québec, qui certifie ce qui est fabriqué ici et y appose un logo, il était important de dégager des données qui parlent aux gens pour leur faire réaliser que les gestes qu'ils posent ont un impact. L'idée, ce n'était pas d'arriver puis de dire « On change tous nos achats à la quincaillerie et on achète juste des produits québécois. » Ça n'aurait pas de sens, ni du point de vue du consommateur, ni du point de vue de la capacité de production du Québec, mentionne-t-elle au bout du fil. C'est pour ça qu'on a des équipes qui ont fait des scénarios pour arriver avec quelque chose qui a du sens. Autre élément à considérer. Acheter québécois ne coûte pas systématiquement plus cher. Souvent, c'est parce qu'on ne connaît pas l'existence de certains produits, reconnaît Mme Morin. La peinture est un bon exemple. Il y a une offre québécoise à prix comparable, à qualité comparable. Elle se réjouit de voir que, sur les rayons, certains produits, d'ici et d'ailleurs, sont placés côte à côte et affichent des prix similaires. Vêtements québécois. Dans certaines régions, comme les articles de quincaillerie, les meubles et les produits de beauté, le consommateur peut aisément faire des choix locaux à prix comparable. Il en va autrement au rayon des vêtements. Les chandails et autres pantalons fabriqués ici doivent rivaliser avec les prix affichés sur des vêtements d'ailleurs vendus ici à bas prix. C'est vrai qu'en termes de fabrication vestimentaire de masse, on en a peu au Québec, confie Elfie Morin. Malgré tout, selon le rapport, il y a moyen de faire sa part quand il s'agit de la garde-robe. Un achat de 25 $ par ménage, par année, en vêtements locaux, plutôt qu'importés, générerait 3,2 millions en revenus pour le gouvernement du Québec, soit l'équivalent du financement de 244 places subventionnées en service de garde pour un an, indique-t-on dans le rapport. Un changement modeste. Les changements de dépenses analysés dans les simulations ne sont pas trop ambitieux dans une période où bien des consommateurs se serrent la ceinture, souligne la directrice générale des produits du Québec. Même si c'est 10 $, ça a un impact, soutient-elle. Ce sont quand même des retombées qui sont importantes aussi. On est toujours dans un mode de transfert de dépenses et non pas dans des dépenses additionnelles. L'étude va dans le même sens. L'intérêt de ces résultats tient justement au fait qu'il ne repose pas sur un scénario irréaliste ou sur une mobilisation totale des consommateurs. Même une substitution de seulement 100 $ de dépenses par année par ménage, soit moins de 2 $ par semaine, entraînerait déjà des retombées estimées à une hausse du PIB de 230 millions et à la création ou au maintien de 2 200 emplois. Bien que cette analyse donne des arguments supplémentaires en faveur de l'achat local, Mme Morin ne veut surtout pas adopter un ton moralisateur. L'idée, ce n'est pas de dire aux gens qu'ils n'ont pas le choix d'acheter québécois, assure-t-elle. Mais si je peux le faire dans certaines catégories de produits, pourquoi pas? Surtout quand l'offre et le prix sont comparables. C'était un 25 $ qui fait une grosse différence sur l'économie d'ici. Un texte de Nathaël Morissette, paru le 25 juin 2026 dans La Presse.
Les huiles végétales industrielles au banc des accusés. Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science. En nutrition, il n'est pas rare de chercher un coupable simple pour expliquer des problèmes de santé complexes. Cette année, ce sont les huiles végétales industrielles qui se retrouvent au banc des accusés. Sur les réseaux sociaux, des voix controversées, mais suivies par des millions de personnes, soutiennent que ces matières grasses seraient toxiques, pro-inflammatoires et associées à des maladies métaboliques comme l'obésité et le diabète de type 2. L'expression « huile végétale industrielle » est un terme un peu flou qui désigne ce que l'on appelle aussi les huiles de graines « seed oils ». En quelques années, des huiles végétales pourtant banales, comme celles de canola, de soya, de maïs, de tournesol, de cartame, de pépins de raisin, de sons de riz et de coton ont été démonisés au point d'être rebaptisés les « Hateful Eighth ». Or, ces huiles sont loin d'être nocives. Elles sont riches en acides gras insaturés, principalement en oméga-6, des gras essentiels reconnus pour leurs effets bénéfiques sur la santé. Le terme « industriel », souvent associé à tort à l'idée de « toxicité », renvoie simplement aux procédés modernes d'extraction et de raffinage. Ces étapes n'altèrent ni la qualité nutritionnelle de ces huiles, ni les effets bénéfiques associés à leur consommation. Si ces huiles sont aujourd'hui pointées du doigt, c'est en grande partie à cause d'une ancienne hypothèse voulant qu'un excès d'oméga-6 par rapport aux oméga-3 favorise l'inflammation chronique. Au départ, l'idée semblait plausible, puisque les oméga-6 participent à certains mécanismes de la réponse inflammatoire. Mais participer à un mécanisme ne signifie pas en être la cause. Lorsque cette hypothèse a été testée de façon rigoureuse, les données n'ont pas confirmé ces craintes. Largement examinée et invalidée dans la littérature scientifique, cette hypothèse discréditée continue pourtant de circuler dans l'espace public. Amplifiée par les réseaux sociaux et des livres grand public aux messages alarmistes, elle a fini par prendre l'allure d'un débat scientifique, alors que le consensus est établi depuis longtemps. Les huiles végétales ne sont ni toxiques ni pro-inflammatoires, et elles ne sont pas responsables des maladies chroniques. Lorsqu'elles remplacent les graisses saturées, comme l'huile de palme, ces matières grasses courantes et abordables sont associées à une réduction du risque cardiovasculaire et de la mortalité. Dans toute cette histoire, les solutions mises en avant ne sont pas neutres. Les détracteurs des huiles végétales industrielles prônent généralement un retour aux graisses dites traditionnelles, comme le beurre, le suif de bœuf ou l'huile de coco, et s'inscrivent souvent dans la promotion de modèles alimentaires comme les diètes cétogènes, paléo ou carnivores. Cette opposition inscrit la controverse dans un cadre idéologique plus large, marqué par une méfiance envers la science et les recommandations officielles, et un scepticisme, qu'il soit fondé ou non, envers l'industrie alimentaire. En diabolisant certains aliments tout en présentant des solutions miracles pour améliorer sa santé, la désinformation autour des huiles végétales industrielles alimente tout un écosystème de livres, de balados et de produits dérivés très rentables pour ceux et celles qui ont tout intérêt à ce qu'on les croit. C'était « Les huiles végétales industrielles au banc des accusés ». Un texte d'Annie Ferland, diététiste nutritionniste, paru le 8 mai 2026 dans le magazine Québec Science.
Pourquoi je vais exercer la médecine ailleurs qu'au Québec? Un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 1er juillet 2026 dans Le Devoir. J'ai terminé ma dernière journée comme médecin au Québec le 26 juin 2026 après avoir pratiqué 12 ans à l'hôpital de Châteauguay. Les réactions face au récent article de Radio-Canada, près de 50 médecins recrutés du Québec depuis le mois d'octobre, me rappellent la peine que j'ai vécue à l'automne 2025 en lisant des commentaires semblables. Je prends donc le risque d'expliquer ma perspective pour ouvrir la voie vers des discussions de société plus productives et peut-être, qui sait, vers un meilleur système de santé au Québec. Contrairement à l'accusation la plus fréquemment lancée par les commentateurs à l'endroit des médecins, soit qu'ils sont avares, je ne quitte pas le Québec pour être mieux payé. En 2018, j'ai signé une lettre ouverte publiée par Médecins québécois pour le régime public pour demander que les hausses de rémunération négociées à cette époque pour les médecins spécialistes soient annulées et que les fonds soient redistribués afin d'améliorer le système de santé. Bien que mon revenu soit bien en deçà du chiffre sujet à débat et souvent cité de 548 000 $ par année, je demeure persuadé que l'argent ne fait pas le bonheur et j'aurais été bien d'accord qu'on baisse notre salaire de 15 % à la condition que cela soit réinvesti dans le réseau de la santé. Rappelons que cela n'avait même pas été évoqué comme possibilité par la Coalition Avenir Québec à l'automne 2025. Aujourd'hui, je suis désolé de voir qu'encore une fois, le parti politique au pouvoir a accordé des augmentations aux fédérations médicales sans avoir réinvesti dans le réseau de la santé afin d'assurer la pérennité du système public. Je ne suis pas gestionnaire du système de santé, mais je vois un éléphant dans la pièce dont personne ne parle. La médecine devient exponentiellement plus complexe avec le temps, car les avancées scientifiques permettent aux humains de vivre beaucoup plus longtemps avec beaucoup plus de maladies graves. Depuis 2004, soit lorsque j'ai commencé mes études, d'innombrables découvertes ont sauvé, prolongé ou amélioré la vie des patients, tout ça avec des coûts astronomiques et des complexités auparavant inimaginables. Avec le vieillissement de la population, il y a infiniment plus de patients ayant des maladies complexes qu'il y a à peine 10 ans. Les gouvernements successifs n'ont pas fait le nécessaire en préparation à cette nouvelle réalité. Au lieu de trouver des solutions concrètes ensemble avec les patients et les professionnels sur le terrain, tous les partis politiques ont préconisé la voie expéditive consistant à équilibrer les budgets et à réorganiser les cadres tout en blâmant les médecins afin d'obtenir des gains politiques. Une des raisons pour lesquelles je suis moins payé que d'autres est que je suis lente. Je prends mon temps avec chaque patient pour essayer de bien les comprendre, de bien les conseiller et de les traiter comme je voudrais être traité. Même si je vois moins de patients que certains, je reviens chez moi vers 18-21 heures quasiment tous les jours. Je travaille parfois 48 heures de suite, avec peu de sommeil en plus des fins de semaine. Depuis des années, je rate donc la majorité des soupers et des heures de coucher de mes jeunes enfants, en plus de maintes occasions spéciales où maman travaille encore. Ce que je décris ici ne fait pas de moi une médecin extraordinaire. Je suis entouré de médecins qui travaillent ainsi, beaucoup depuis plus d'années et en faisant plus de sacrifices personnels que moi. Les études de médecine au Québec coûtent de 10 000 $ à 15 000 $ de moins par année pour 4 ans comparativement aux autres provinces canadiennes. En revanche, le salaire de résident que nous recevons après avoir obtenu notre diplôme de MD durant la partie de notre formation pour devenir médecin indépendant est de 10 000 $ à 30 000 $ de moins par année que dans les autres provinces. Lorsque j'étais médecin résidente, j'ai été payé 50 000 $ par an entre 2009 et 2014 en travaillant de 60 à 100 heures par semaine, ce qui donne un taux horaire de 10 $ à 16 $. Il est simplement faux d'affirmer que de former les médecins a coûté cher aux contribuables du Québec. Les hôpitaux universitaires sont entièrement dépendants des résidents, qui sont payés à des salaires parfois moindres que le salaire minimum pour fonctionner. Être accusé d'être une personne paresseuse et avare qui profite de la société parce que je suis médecin dans un système de santé qui s'écroule après toutes ces années de sacrifices personnels m'a blessé profondément. J'ai compris que j'étais épuisé et que je n'étais plus en mesure de travailler ainsi. J'ai donc décidé d'aller vers un milieu où j'ai le droit de travailler à temps partiel dans un hôpital, chose impossible au Québec à cause du système de plans d'effectifs médicaux, même si je veux être payé moins. Je ne connais pas les autres médecins qui quittent le Québec, mais je doute que ce soit pour gagner plus d'argent. Nous sommes des êtres humains qui ont des besoins comme tout le monde. Il est contradictoire de demander aux médecins de pratiquer de façon plus humaine sans traiter les patients comme des numéros et en même temps de leur demander de voir plus de patients, plus malades, tout en les accusant d'être la source de tout ce qui ne fonctionne pas dans le réseau de la santé. Pour ma part, je quitte le Québec avec le cœur lourd, mais beaucoup d'affection pour mes patients et mes collègues courageux et acharnés qui continueront à travailler dans des conditions très difficiles. Arrêtons de nous diviser et tentons de nous traiter mutuellement comme des gens qui veulent que ça fonctionne. C'était « Pourquoi je vais exercer la médecine ailleurs qu'au Québec », un texte d'Anne-Sophie Dufour, paru le 1er juillet 2026 dans Le Devoir.